Sans une représentation. C'est très important de comprendre ça.
Alors, je me pose la question, quand j'essaie de penser l'être,
eh bien, oui, vous savez ce que disait le bon père Mandonné, quand vous pensez l'être, il faut avoir 40 degrés de fièvre, et vous représentez un petit nuage qui se Alors, c'est ça. Penser l'être, c'est ça. Bon, quand vous pensez l'être, vous, philosophiquement, c'est toujours par rapport à un fond. Vous voyez ? C'est toujours relatif à un fond. Les réalités, les étangs. Vous voyez ? Il y a toujours une espèce d'opposition que vous posez comme fond de la chose. Et vous essayez d'émerger à ce moment-là. Alors, il faut comprendre que l'intelligence se sert de l'image pour saisir. Et la saisie n'est plus de la représentation. Donc le contenu de votre saisie de l'être, vous ne pouvez pas vous le représenter. Ça, tout à fait d'accord. Mais la manière dont vous saisissez, dans l'ordre de l'exercice, c'est toujours lié à une image. Une image très purifiée, très décantée, très, c'est toujours une image. Enfin, ce fait que, vous voyez, constamment, on voit ça chez les spirituels, mais même chez saint Thomas, comme au point de vue théologie scientifique, constamment saint Thomas donne une image. Par exemple, c'est dans de l'image, c'est un support. Notre intelligence a besoin de s'appuyer sur une image. Mais elle la dépasse, mais elle s'appuie sur une image. Ça nous aide. On sent très bien ça. Quand on fait un effort, une chose difficile, il faut donner tout d'un coup une petite image qui aide. Soutiennent. Oui. Ça permet de rebondir. Autrement, on se coince. Alors l'intelligence est coincée. Fait un effort et puis il ne faut plus rien du tout. Quand vous voulez cogiter trop fort, au bout d'un certain temps, vous cogitez plus. Il y a une espèce d'arrêt. Et qui fait que, alors à ce moment-là, il faut une détente et la détente se fait par l'image. Le retour sur l'image qui fait rebondir. Mais tout. Saint Thomas dit que, alors lui il le dit même au plan surnaturel, que pas un acte de foi ne se fait sans une image, puisque la foi, c'est ça qui est important, c'est que derrière tout ça, il y a quand même toute une... La foi ne supprime en rien notre conditionnement humain. Donc la foi va s'insérer dans la vie de l'intelligence, à quel niveau? Au niveau du jugement, au niveau de l'appréhension. C'est pas au niveau de l'appréhension. La foi ne nous apporte aucun concept nouveau. La foi nous apporte un nouveau jugement, mais pas un concept nouveau. Alors oui, c'est très important si on veut saisir exactement le passage de la philosophie à la foi, c'est de bien comprendre le passage de l'appréhension au jugement. C'est au niveau du jugement, la foi. La foi nous donne un nouveau jugement. Elle ne nous donne aucune idée nouvelle. C'est pour ça que si vous êtes bête, la foi ne vous rendra pas intelligent. Il y a des gens qui sont bêtes et qui croient. Les gens qui sont bêtes et qui croient, ils ont la foi, mais ils continuent pas à comprendre grand-chose. Et puis il y a des gens très intelligents qui n'ont pas la foi. La foi ne modifie pas notre conditionnement intellectuel, et donc la foi ne se situe pas au niveau de la saisie, de l'assimilation. Ça, c'est les concepts. La foi nous apporte un nouveau jugement. Bon, est-ce qu'il y a une autre question dans le fond de la vie ?
Est-ce que
dans le point de vue, chez l'artiste, sûrement, dans l'artiste, il y a du côté sensation, capacité, c'est ça la sensibilité des artistes. Les artistes ont quand même une sensibilité, normalement, plus affinée que les autres. Le peintre saisit mieux les couleurs, la lumière. Plus axé vers ça, le sculpteur saisit mieux, ainsi de suite. Chacun des artistes, le reste des arts, sont reliés toujours au sensible propre. Et l'artiste met dans sa sensibilité artistique, il a une espèce de possibilité de saisir les sensibles propres avec beaucoup plus grande acuité. Oui. Et les sensibles communs demeurent, mais il les met beaucoup plus en lumière. Vous voyez. Et dans son imagination artistique, les sensibles propres seront sûrement beaucoup plus présents. Dans son imagination, son inspiration. Mais l'inspiration, alors justement, sera quelque chose d'autre que l'imagination. Et dans son inspiration, c'est les sensibles propres. Ça, c'est sûr. Bon, alors, essayons de continuer. Parce que je vous ai laissé devant un problème très important, le passage du visible à l'invisible. Le passage de ce que représente l'image lors de la représentation de la sensation. Donc, alors ici, il serait très intéressant, hein, au point de vue culture philosophique, d'essayer de regarder comment les philosophes ont déterminé cela. Comment Platon voit-il ce passage du visible à l'invisible? Je vous donne quelques exemples, parce que c'est intéressant. C'est intéressant pour voir que c'est le problème philosophique numéro un. Et c'est pour ça qu'au point de vue critique, c'est le problème philosophique numéro un. Ça, je crois, personnellement. Si on ne voit pas, quelque chose n'est pas vu jusqu'au bout. Et c'est difficile à voir, c'est pas commode. À bien saisir. Hein. Si on veut coller quelqu'un, on a qu'à le trouver là-dedans. On est sûr de le coller. Parce que c'est pas commode. On comprend, mais après, quand il s'agit de le redire, hein, sans l'avoir appris, en le comprenant, en le saisissant. Alors, pour Platon, c'est très simple. Les formes idéales, on les avait avant d'être unis au corps. Donc, Platon rejette la sensation pour considérer que c'est l'intelligence dans sa pureté qui saisit immédiatement l'intelligence. C'est une solution très simple. De dire tout s'est passé avant d'avoir un corps. La réminiscence. Et il n'y a pas que Platon. Origène dira des choses semblables à ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est que l'âme va être unie au corps pour porter, c'est à cause du péché. L'union de l'âme et du corps, c'est une conséquence du péché. Alors que c'est une conséquence du péché, alors par le fait même, l'âme avant d'être unie au corps était purement liée au point de vue intelligible. Regardez chez Parménide, avant encore Platon, Parménide, et c'est la révélation de la déesse. Il faut une révélation pour passer du sensible à l'intelligible. C'est une révélation. La révélation nous fait décoller. Regardez chez Kant. Kant, il parlera des formes a priori. Les formes a priori, c'est pour essayer de répondre à ce problème. Il ne faut pas l'oublier. Donc, si vous ne voyez pas ce problème, la réponse de Kant ne signifie rien du tout. Les formes a priori, c'est ce contact direct de la signification profonde des choses. Pour Aristote et pour saint Thomas. Je prends leur position, puisque là, saint Thomas a repris la position d'Aristote. On va poser au-dedans de nous, c'est-à-dire dans notre intelligence, notre intelligence, puisqu'elle progresse, je suis capable de progresser.
C'est la finalité des cours.
Le jour où vous seriez plus capable de progresser, vous diriez assez. Plus besoin, c'est plein. C'est plein, il ne faut plus rien dire du tout. Donc, l'intelligence progresse. Si l'intelligence progresse, elle est donc en acte et en puissance. C'est toute la question du devenir de l'intelligence, de la croissance de l'intelligence. Je deviens de plus en plus intelligent.
Vous pouvez dire, je deviens de plus en plus bête, vous pouvez dire, après une année de propédeutique, après 2 ans de théologie, je frise à la bêtise. Je ne comprends pas. Il y a une année de philosophie, c'est merveilleux. Seconde année de théologie, oh, de philosophie, c'est effrayant. Je comprends pas du tout. Je viens complètement dingue. Complètement.
Alors je régresse. Régression. Régression. Retour au berceau. Parce que c'est ça la régression. Retour au berceau. Donc, je retourne au sensible.
Oui, ça, il est intéressant.
Et la bouteille est là. Le sensible propre, il est très très lié à la bouteille. Alors, c'est une régression. Vous voyez, c'est le retour. Retour au berceau, c'est ça. Le sensible propre. Et je ne fais plus effort pour découvrir quelque chose de nouveau. Tandis que quand mon intelligence progresse du sensible vers l'intelligible, du sensible avec la zone de brouillard entre deux. Vous voyez, la zone de brouillard, c'est l'imagination. Alors c'est tout à fait la zone imaginative entre deux, mais tout d'un coup il y a une lumière qui se fait, le passage très curieux, ça de là, le passage de la lumière du soleil à travers l'imagination. Ça fait toujours penser à ce que représente l'intelligence. L'intelligence, parce qu'elle elle est une intelligence qui devient, il y a un devenir dans l'intelligence, il y a une croissance dans l'intelligence. L'intelligence est donc en acte et en puissance. Elle est capable de progresser et elle progresse. Elle est capable de progresser, elle est donc en acte. Et elle progresse, je veux dire, elle est capable de progresser, elle est en puissance. Et elle progresse, elle est en acte. Et alors, c'est ce qu'on a appelé l'intellect agent. Enfin, c'est le fameux mot d'Aristote. Et il prend l'exemple de la lumière. C'est pour ça que je vous donne l'exemple de la lumière. L'intellect agent, il est comme la lumière. Il est comme la lumière. C'est l'intellect agent qui vient éclairer l'image pour faire que de l'image qui reste au niveau justement du brouillard, qui fait que à partir de l'image, il va y avoir certaines déterminations qui vont apparaître. Et ces déterminations, c'est ces formes intelligibles. Intentionnelle, qui vient déterminer l'intelligence. Donc ces formes intentionnelles proviennent des images sous l'illumination de l'intellect agent, c'est-à-dire sous l'illumination de mon intelligence. Et vous voyez, c'est là où on voit qu'on est plus ou moins éveillé. Plus ou moins éveillé, suivant que les images sont plus ou moins fortement illuminés. Quand on n'est pas très éveillé, on reste au niveau des images, au niveau de l'air et de l'air basse. On reste à ce niveau-là, on reste au niveau des images. On n'arrive pas à dépasser l'opacité des images. On ne voit rien. Et tout d'un coup, une lumière se fait. Donc, tout d'un coup, petite lumière. Ah, tiens, j'ai compris. Et oui, c'est vrai. À partir de l'image, il y a une forme intentionnelle. À partir de l'image champ, je comprends le champ. Le passage de la représentation à la signification. À partir de la couleur rouge, je saisis la qualité. Je saisis ce que c'est que le rouge. Très curieux, vous voyez ? Ça, c'est l'intelligence. À partir donc de l'image, l'intellect, l'intelligence dans sa force active et dans sa capacité d'illumination, vient transformer, faire que de l'image va naître une forme intelligible, intentionnelle. Et cette forme intentionnelle est reçue dans l'intellect passif. Très curieux, l'intelligence. L'intelligence se divise, en quelque sorte, si vous voulez. Elle se divise en intelligence illuminatrice et en intelligence réceptive. L'intelligence illuminative va permettre à l'image de déterminer l'intelligence capable de progresser. Et elle détermine l'intelligence capable de progresser par la forme intentionnelle. Vous voyez, ça c'est une petite construction. Bien entendu, c'est une petite construction. J'ai essayé d'expliquer, c'est l'explication d'un comment. J'essaie d'expliquer le passage du visible à l'invisible. J'essaie de l'expliquer. Et je l'explique de cette manière en disant que l'intelligence est capable de puiser son bien dans l'image. Et elle puise son bien dans l'image. En éclairant l'image, elle abstrait. Il y a une abstraction, une forme intentionnelle. La détermination fondamentale qui est dans l'image. Elle est dans l'image, la forme intentionnelle. La forme intentionnelle, elle est dans l'image. C'est la détermination fondamentale de l'image. C'est ce que l'image possède au plus intime d'elle-même. Mais qui, dans l'image, est opaque. Et c'est l'intelligence qui, l'éclairant, lui fait donner cette détermination. Et c'est la lumière de ma vie, l'intellect agent. Et cette lumière vient supprimer l'opacité de l'image. Et supprimant l'opacité de l'image, fait apparaître la forme intentionnelle. Oui, ça c'est une construction, mais c'est une construction qui est au fond très proche quand même de ce que je constate. Qu'est-ce que je constate? Je vais essayer de revenir. Hein. Qu'est-ce que je constate? Qu'est-ce que je vois? Je vois que toute ma vie intellectuelle est liée à l'imagination. La preuve, et aujourd'hui on a des preuves très tangibles de ça, c'est que je peux faire une petite opération, très très simple, chirurgicale, qui fait retomber l'homme à l'âge de 4 ans. Il devient comme l'homme. Absolument, petite opération. Ça c'était en 5 minutes. Il y avait un spécialiste à Fribourg dans le temps. Et quand je suis arrivé à Fribourg, on en parlait beaucoup. Il y avait un spécialiste, parce qu'on venait lui apporter le vieux grand-père qui avait des colères de temps en temps, des mauvais caractères. Alors on venait l'apporter, on disait ça au chirurgien. Alors c'est très bien, disons que je vais vous retarder un peu, refaire plus. Puis tout d'un coup, il y a une opération. C'est ici. Une opération très simple, détecte de vieux grand-père, il venait comme un enfant de 4 ans. Et là, il n'avait plus de colère à ce moment-là. On est tout à fait tranquille. Alors on avait pisté ça au bout d'un certain temps. On a dit, voilà, ce médecin, il n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'il touchait la personne. Vous détruisez à ce moment-là quelque chose. C'est quand même très curieux. Alors, vous voyez, c'est ces expériences qui font dire, vous voyez, on supprime l'intelligence à quelqu'un. Vous voyez bien, vous détruisez la personnalité. Les sérums de vérité, c'est la même chose. Comment vous pouvez, les lavages de cerveau, ça se fait plus lentement, c'est la même chose. Vous agissez sur l'imagination. Vous agissez sur les images, et donc sur le cerveau. Parce que l'imagination est le cerveau. Et vous n'agissez pas sur l'intelligence qui sépare. Mais l'intelligence ne peut pas s'exercer sans une image. Et donc, négativement, si vous arrivez à modifier les images, vous pouvez très bien arriver à modifier les images. Vous pouvez très bien, par certains effets, faire que vous voyez tout en rose. Merveilleux. Hein, vous prenez la pilule euphorique du matin. Alors, toutes vos images sont merveilleuses, étonnantes. C'est pas... Mais vous décollez, vous n'êtes plus dans le réel. Hein. Et vous n'arrivez plus, comme ces images sont très très fortes, vous n'arrivez plus du tout à les dominer. Vous êtes dans un état euphorique. C'est très agréable pour les grands-parents. Pour les grands-parents, quand ils sont là, voilà. Est un vol. Il faut prendre la petite pilule de tous les matins, peu importe les résultats, peu importe. Et alors à ce moment-là, on voit très bien comment on agit sur l'imagination pour faire qu'à partir de là, il n'y ait plus que ça. Vous n'agissez pas sur l'intelligence, mais sur l'imagination. Vous savez, l'imagination, c'est la folle du folie. C'est la folle du logique. Il ne faut pas l'oublier. Alors vous pouvez agir sur l'imagination de façon étonnante. Et en agissant sur l'imagination, vous empêchez l'exercice de l'intelligence. Parce que votre intelligence est liée à l'image. Tout exercice de l'intelligence se fait par l'image. Ça, il faut bien saisir. Une fois que vous avez saisi ça, ça, c'est un fait qu'on constate. On ne peut pas nier. Toujours. Toute ma vie intellectuelle est liée à mon image, à l'image. C'est pour ça que, après avoir pris un bon repas, bien mangé, bien bu, votre imagination est particulièrement lourde et votre intelligence a beaucoup de peine de faire de la métaphysique. C'est sûr. Hein. Votre intuition de l'être à ce moment-là est assez pesante. Elle a quelque chose d'assez particulier. Vous arrivez difficilement à remuer ces fantasmes un peu lourds et vous somnolez. N'est-ce pas? Et quand vous somnolez, votre intelligence n'est pas très, très vivante. Alors c'est le poids des fantasmes. Et le poids des fantasmes font que justement il y a ça qui est très lourd. Alors ce poids des fantasmes empêche l'intelligence d'être particulièrement vivante. Quand vous avez mal au foie, c'est la même chose. Quand vous avez mal à la tête, c'est la même chose. Et ainsi de suite. Les conditions psychologiques et biologiques jouent beaucoup sur la vie de l'intelligence. Il faudrait avoir une intelligence extrêmement forte pour être au-dessus. Et ça, c'est une grande habitude. Une grande habitude donne ça, ça donne l'habitude. Alors l'intelligence à ce moment-là est suffisamment lumineux, vous avez des phares contre les brouillards, et alors c'est suffisamment lumineux pour que, de fait, n'importe quel brouillard, vous arrivez, que votre imagination est dépassée, et vous arrivez à découvrir ces formes intentionnelles. Donc, vous constatez ça, que votre vie intellectuelle est dépendante de l'image. Deuxièmement, vous constatez que l'image est au niveau de la représentation, et que l'intelligence vit la signification. Comment expliquer le passage? C'est ça le problème. Vous le résolvez, vous ne voulez pas. Ah, je ne veux pas le résoudre. Très bien, vous ne résolvez pas. Mais si vous voulez l'expliquer, il faut l'expliquer avec les moyens du bord. Hein. Quels sont les moyens du bord? C'est que je vois qu'il y a en nous une intelligence, qui est une intelligence capable de progresser. Donc une intelligence qui est à la fois en acte et en puissance. Et c'est suffisant pour expliquer comment l'intelligence étant en acte et en puissance illumine des fantasmes. Des fantasmes produisent cette forme intentionnelle et permet à l'intelligence de penser. Bon, alors, encore une petite remarque avant d'arriver à voir quelque chose de très important. Il faut saisir ici que nous sommes en présence de ce que représente la détermination radicale et première de l'intelligence. C'est en sens que nous pourrons dire que c'est là où nous saisissons parfaitement ce que c'est que l'objet. Ça, c'est aussi un très grand problème. Je vous ai dit tout à l'heure, avec Descartes, l'objet, c'est le mesurable. Avec saint Thomas, l'objet, c'est le principe de détermination. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors ça, je crois que c'est important de le saisir aussi. C'est important de comprendre qu'avec Descartes a pris comme définition de l'objet ce qu'on prend dans les sciences physiques. Qu'est-ce qui détermine l'intelligence? C'est ce qui est mesuré. Et donc c'est le mesurable. Pour saint Thomas, au contraire, à la suite d'Aristote, qu'est-ce qui détermine la vie de l'intelligence? C'est ma forme intentionnelle, c'est mon concept. Et donc l'objet est au niveau du concept, et non pas du mesurable. L'objet, c'est ce qui détermine radicalement ma vie intellectuelle. Tout ce qui détermine ma vie intellectuelle est objet de mon intelligence. Donc il faut bien comprendre ça. Je dis ça, c'est parce que dans le langage moderne, le terme objet prendra des significations tout à fait différentes. Alors, je crois que c'est important de comprendre la signification première de l'objet. L'objet, à la différence du sujet connaissant, c'est ce qui détermine le contenu de ma pensée. Voilà ce que c'est que l'objet. C'est ce qui détermine le contenu de ma pensée. C'est donc un principe de spécification, c'est-à-dire un principe de détermination. L'objet est toujours un principe de détermination, ce qui détermine ma vie intellectuelle. Et qui, par le fait même, coopère avec ma vie intellectuelle. Donc ça, c'est pour bien comprendre que c'est au niveau donc de l'appréhension et de l'assimilation intentionnelle que je saisis le concept, et en saisissant le concept, je saisis ce que c'est que l'objet. Dernier problème. Le passage de l'image à la forme attentionnelle implique une abstraction. Alors ça aussi, il faut savoir ce que c'est que l'abstraction. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'intelligence qui illumine l'image. Toute abstraction implique une illumination. Il y a deux versants dans l'illumination. Vous n'avez qu'à penser tout simplement... Quand on voit, surtout aujourd'hui, soit lumière et son, soit quand vous voyez un grand... ça se fait surtout pour les châteaux. On voit, quand on veut représenter la genèse d'un château, je vois en France, au château de la Loire, c'est quelquefois très bien montré. Alors on veut montrer, dans une première projection, un premier jet de lumière, on montre qu'une toute petite partie du château. Puis après, on montre comment il s'est construit au cours des arts. Le premier lumière sur cette toute petite partie, c'est une illumination. Vous illuminez une partie, tout le reste reste dans les ténèbres. Tout le reste est mis en dehors. Alors, il peut y avoir une illumination avec abstraction, il peut y avoir illumination sans abstraction. Quand tout est illuminé, il n'y a pas d'abstraction. Alors, vous avez une intuition. Au fond, une intuition, c'est quand vous saisissez tout. C'est lumineux, j'ai tout saisi. C'est merveilleux. C'est extraordinaire, j'ai tout saisi. Ah, j'ai saisi une partie. Il y avait certains points lumineux. Et puis d'autres, ça retombait dans le point de vue de l'opacité du nuage. Hein. C'était très dur, je ne voyais plus très bien. N'est-ce pas ? Il fallait scaphandrier pour saisir encore quelque chose. Il fallait poursuivre, je n'arrivais pas. Alors, on voit très bien ce qui se passe. Grâce à l'intellect agent, l'image est illuminée. Et de cette image va apparaître cette forme intentionnelle qui vient déterminer l'intelligence. Mais cette forme intentionnelle n'est pas adéquate à l'image. Elle n'est qu'un aspect de l'image. Elle est la détermination la plus fondamentale de l'image qui est mise en pleine lumière. Le reste, le reste, on le laisse tomber. Donc, on l'abstrait à partir de là. L'illumination implique une abstraction. Abstraire. Faire sortir de cela. C'est ça l'abstraction. Faire sortir de cela. L'illumination à partir de l'image. Où j'illumine cette détermination intentionnelle. Parce que il y a justement abstraction, il va apparaître l'universel. Nous n'oublions pas ce que nous voulions montrer, c'était l'apparition de l'universel. Mais on a fait un petit détour. Vous ne pouvez pas expliquer l'apparition de l'universel sans faire ce détour. Alors vous avez donc, à partir de cette forme intentionnelle, en tant qu'elle est assimilée, elle est le concept, et je dirais que ce concept, comme cette forme intentionnelle, implique une forme abstraite à partir de l'image, à partir de la réalité sensible, et la double abstraction, pour saisir à ce moment-là cette forme qui a sa signification propre, et je dirais cette signification a un caractère d'universalité. Alors, on va s'expliquer un petit peu. Voilà l'universel qui apparaît sur le concept. Oui. L'universel apparaît d'abord sur le concept. Le concept, cette forme intentionnelle, qui est la réalité en tant que signifiée, en tant qu'elle signifie quelque chose, en tant que saisie par l'intelligence, cette réalité, cette forme intentionnelle saisi par l'intelligence, qui est le concept, a un mode universel. Elle a un mode universel. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis qu'elle a un mode universel? Oui, c'est pas si commode que ça, saisir l'universel. Il faut quand même le saisir dans son origine fondamentale. Elle a un mode universel. Quand je dis un mode universel, c'est pour la distinguer de l'image ou de la réalité sensible qui est singulière. L'universel se distingue toujours du singulier. De sorte que ça a été la grande question hegelienne de faire un universel singulier. Et bien ces problèmes-là, il faut les saisir. Le problème de la philosophie hegelienne, c'est ça, c'est de pouvoir dépasser cette opposition d'universel ou singulier. Et il a raison d'une certaine manière. L'intelligence ne peut pas supporter l'abstraction. Elle est obligée de passer par là. Mais elle ne peut pas la supporter. C'est la seulement l'abstraction. Vous voulez toujours venir au singulier quand même, c'est ça qui vous intéresse. Votre action est toujours singulière. Vous ne pouvez pas agir sur l'universel. L'universel a ce privilège énorme, c'est qu'on ne peut pas l'atteindre. Vous voyez, on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas détruire un universel, qui détruit un singulier. L'universel ne vit pas. C'est le singulier qui vit. Et l'universel, c'est une... Vous êtes obligé de passer par là. Votre vie intellectuelle implique, comme condition sine qua non, de passer par l'universel. Pas drôle du tout, hein. C'est la petite porte. C'est vrai, c'est pas drôle du tout de devoir passer par l'universel, parce que de fait, c'est vrai, c'est appauvrissant. L'universel, c'est un appauvrissement. La réalité sensible est bien plus que l'universel. C'est pour ça que la réalité sensible peut mesurer mon universel. La réalité sensible est source de l'universel. Et donc, elle a une richesse bien plus grande que l'universel. L'universel a ce privilège, c'est le propre de l'universel, c'est de rassembler une vie. Il rassemble. L'universel rassemble. Quand je dis chat, vous pouvez élever 1000 chats et vous direz chat. Ils seront clairs. Et ce seront toujours des chats. Vous en aurez 1000 singuliers, existants, ayant tous un poil différent. N'est-ce pas? Tous. Individuellement unique, ineffable, chacun. C'est pour ça que vous pourrez les aimer chacun dans un monde particulier. N'est-ce pas? Mais, tandis que vous n'aimerez pas le chat universel. C'est quand même très curieux de dire le chat. Signifiez par là une quantité. Vous voyez le privilège de l'universel. L'universel montre comment l'intelligence est capable de s'élever très haut pour réunir une multitude. C'est quand même très extraordinaire. Quand nous pensons, nous sommes capables de penser l'universel. Je me souviens, c'était un livre, c'est des livres qu'on lisait autrefois au réfectoire, dans le silence du réfectoire, ça prenait une dimension particulière. Alors on parlait, je ne dis pas de qui, parce que c'était... On disait, une fois dans sa vie, il a atteint l'universel. Ça, j'ai retenu. C'est quand même un éloge prodigieux. Une fois dans sa vie, il a atteint l'universel. On voit très bien, il a atteint l'universel, c'est quand même quelque chose, hein, de comprendre ce que c'est que l'universel. C'est l'intelligence qui, à ce moment-là, est elle-même. Tant qu'elle n'a pas atteint l'universel, elle n'est pas elle-même. C'est pas l'intelligence qui plane, hein, c'est pas ça, c'est pas l'intelligence qui plane, elle est elle-même. Elle touche son domaine propre. Quand je reste dans le domaine de l'image, quand je reste dans le domaine de la sensation, je suis toujours dans le domaine du singulier. Toute image est singulière. Alors vous allez me dire, il y a des prototypes. C'est une image, c'est un prototype. Il y a des idées au point de vue artistique qui sont comme des causes exemplaires. Alors ça, c'est au niveau artistique. Alors c'est justement le rêve de Hegel de faire que le singulier soit universel. Et le singulier est universel dans le prototype. Le prototype, il est universel. Et le prototype est en même temps singulier. Il va pouvoir rassembler des quantités de choses qui sont dans la série. Il va tous les rassembler. Et est singulier. Ça n'existe que dans l'œuvre d'art. Mais ça n'existe pas dans la pensée profonde au sens rigoureux dans la réalité, sauf dans l'œuvre d'art. Dans l'œuvre d'art, vous pouvez faire ça. Il y a le singulier rejoint l'universel. L'idée artistique aux exemplaires rejoint l'universel. Alors, comprenons, hein, je reviens. Une fois qu'on a saisi l'universel, il faut bien le saisir. Hein. Il s'agit maintenant de bien saisir comment l'universel s'appuie sur le concept. Il naît à partir du concept. Vous voyez, naissance de la naissance. Il faut que le concept naisse à partir de l'intelligence. Il est le fruit d'une intelligence pensante. C'est dans la mesure où vous pensez fortement qu'il y a un concept qui apparaît en vous, qui apparaît dans l'intelligence. Le concept est porté dans l'intelligence. Et le concept va avoir comme mode particulier l'universel. Alors, l'universel n'est pas la forme intentionnel. Le concept est une forme intentionnelle. Donc le concept est une réalité. Tandis que l'universel n'est pas une réalité. Il est un être de raison. Vous voyez bien le passage du concept à l'universel. Et voyez bien comment le concept a un mode universel. Mais il n'est pas une forme intentionnelle. Il a un mode universel. Et l'universel pris en lui-même n'est pas un être. C'est un être de raison. Et quand on dit un être de raison, on veut dire que c'est quelque chose que l'intelligence est capable de saisir. C'est vrai, je suis capable de saisir ce que c'est que l'universel. Alors je vais me demander, mais qu'est-ce que c'est que l'universel? Alors on va essayer de savoir ce que c'est que l'universel. Non. Il faut bien voir la naissance de l'universel, il faut bien voir comment l'universel affecte le concept au moment où le concept et dans l'ordre de la signification, au-delà de la représentation. Je crois que ça, vous pouvez tous saisir ce moment très particulier de l'apparition de l'universel à partir du concept. Le concept va pouvoir se dire dans la parole. Quand je pense chat, je peux le dire. Et alors, la parole pourra avoir un mode universel comme la parole va avoir un mode singulier. Quand vous décrivez un individu ineffable, vous essayez d'avoir un langage le plus concret possible qui puisse dépeindre exactement ce petit chat avec ce poil extraordinaire qu'il a. Vous essayez. À ce moment-là, par tous les moyens, vous êtes le plus proche possible des qualités sensibles et vous montrer le lien de ces qualités sensibles ensemble, l'harmonie de ces qualités sensibles. C'est ça qui est du. Et vous essayez d'avoir un langage très concret. Tandis qu'au contraire, quand vous exprimez votre concept universel, vous avez un mot universel. Quand vous dites « le chat est un animal ». Animal est un mot universel qui peut être attribué à chat comme il peut être attribué à pierre. Pierre est un animal. Ça ne lui fait pas très plaisir, mais c'est un animal. Il est un animal. Il a cette particularité d'être apparenté au chat en part entière. Il est apparenté au chat. Il est animal. Et l'animal se trouve réalisé dans le chat. Et l'animal se réalisait dans pierre. Tous les deux sont dans le genre animal. Oui, apparaît le genre animal. Et vous savez à ce moment-là ce que c'est que l'universel. Et vous voyez comment l'universel, c'est l'intelligence qui peut dépasser la multitude des représentations pour saisir une signification radicale. Bon, alors maintenant, à partir de là, essayons de regarder ce que c'est l'universel. Alors je regarde avant tout, en premier lieu, le concept universel, mais vous pouvez regarder le mot universel, ça reviendra exactement au même. Pour la question de l'universel, c'est la même chose. L'universel, quand il passe du concept au mot, reste le même universel. Alors il faut essayer de se dire qu'est-ce que c'est que l'universel et les diverses manières dont l'universel se présente à moi. L'universel va se présenter à moi sur des modalités très différentes. Alors ça, c'est important, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'universel. Oui, oui.
Il vous avez dit tout à l'heure, l'intelligence est elle-même quand elle atteint l'universel.
Oui.
Et avant, vous avez dit, l'intelligence ne supporte pas l'universel.
Oui, elle ne supporte pas l'universel. C'est son conditionnement. C'est son propre conditionnement. Elle doit passer par là, mais elle ne le supporte pas en ce sens qu'elle ne s'y arrête pas. Quand vous vous gargarisez d'universel, vous êtes en logique. C'est-à-dire que vous vivez très peu. Vous vivez l'universel. Il ne faut pas dire ça trop à la logique, mais c'est comme ça. On ne vit pas au niveau de la logique. Vous voyez ? Mais vous devez passer par là. C'est un passant. C'est par la logique. Il faut quand même comprendre ce que c'est que l'universel. C'est important. Il y a des problèmes qui sont là autour. Vous voyez ? C'est le conditionnement propre de notre vie intellectuelle. Notre vie intellectuelle est une vie intellectuelle qui n'est pas intuitive. J'abstrais, c'est un phénomène très très connu. Parce que j'abstrais, je suis capable de définir. Alors il faut saisir ce problème particulier de l'universel comme un caractère propre de l'intelligence, vous voyez, du mode de ma vie intellectuelle. C'est pour ça que ça caractérise notre conditionnement intellectuel, mais ce n'est pas la fin de notre vie intellectuelle. C'est le conditionnement de notre vie intellectuelle. Notre vie intellectuelle secrète l'universel. C'est la maladie congénitale de notre intelligence humaine. Notre intelligence humaine, pour comprendre quelque chose, doit secréter l'universel. Il y a des glandes particulières qui sont des glandes qui vont secréter l'universel. Et l'intelligence doit passer par là. Mais la finalité profonde de mon intelligence, ce n'est pas l'universel. Pourquoi ? Parce que la finalité propre de mon intelligence, c'est comprendre le réel qui existe. Je suis intelligent que dans la mesure où je connais le réel qui existe. Je ne suis pas intelligent parce que je sais l'universel. Non. Mais je sais que je dois passer par là. Alors je le respecte. Et je le respecte d'autant plus pour le dominer davantage. Parce que si je ne le respecte pas, il se venge. Il y a des vengeances terribles de l'universel. C'est effrayant. Des vengeances effrayantes. Alors, c'est vrai, c'est ça qu'on appelle la cérébralisation. La cérébralisation, c'est la maladie de tout étudiant de théologie et de philosophie au bout d'un an ou deux ans. Alors, il y a une petite... l'intelligence secrète trop l'universel. Vous voyez, elle secrète tout le temps l'universel. Alors on prend un langage abstrait, un langage effrayant, et on croit être intelligent, parce qu'on prend ce langage abstrait. Ne le prenez qu'aux examens, n'est-ce pas ? Alors ça c'est très bien. Aux examens, prenez un langage abstrait, vous paraître intelligent. Mais pas en dehors de la vie des examens, n'est-ce pas ? Parce que les examens, c'est le conditionnement de la vie de l'étudiant. Alors il doit passer des examens, c'est son conditionnement. Et donc le conditionnement de notre vie intellectuelle, c'est l'universel. À ce moment-là, on prend des grands mots. Parce que l'universel, c'est sur des grands mots. Oui. L'intentionnalité. Ça, c'est l'universel. L'intentionnalité. C'est la forme abstraite de l'intentionnel. L'intentionnel, c'est déjà pas commode. N'est-ce pas ? Mais l'intentionnalité, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux l'intentionnalité. C'est la gabriélité, comme disaient les théologiens. Il y a Gabriel, et puis il y a la gabriélité. Alors, vous comprenez, la gabriélité, c'est ce par quoi Gabriel est Gabriel. Alors c'est quand même pas mal. Alors là, vous avez le point de vue abstrait. Oui, la forme abstraite, la blancheur pour le blanc. C'est cru, mais l'intelligence a ça. Alors quand elle secrète trop l'universel, c'est la cérébralisation. L'intelligence ne revient plus au réel existant. Elle a peur du réel existant. Elle a très peur. Alors ayant très peur du réel existant, elle secrète constamment. Parce que dans la cérébralisation de l'universalité, on est tranquille. On est tranquille, l'universel, ça ne nous attaque pas. C'est un être de raison. Alors, c'est un être de raison qui ne peut pas nous attaquer. Mais c'est important de comprendre ce que c'est pour justement le cerner davantage et empêcher la cérébralisation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'universel ? L'universel implique une unité. C'est la définition que donne saint Thomas. Je vous la donne en latin et je la traduis. Parce que quand même. Unum ad multa. C'est très beau, je dirais. C'est le problème de l'un et du multiple. Hein. Unum ad multa. Unum de multis et il. Ad de il. Qu'est-ce que ça veut dire ? l'universel provient des individus. Les individus sont toujours multiples. Donc, l'universel provient des individus, c'est bien évident. La réalité singulière est multiple. L'universel possède une unité propre. Cette unité propre, c'est dans ce sens-là qu'il domine. L'universel est capable de s'attribuer à beaucoup. Vous voyez, c'est un moment d'un somme. Il provient des singuliers, il retourne aux singuliers. Prenez l'animal. Hein.
Ça sonne.
Animal. Hein. Rappelez-vous qu'on le prenait là, au somme.